Radio Barc, nous nous retrouvons pour la deuxième partie, toujours en compagnie évidemment de Michel Santo, mais aussi de l'invité du jour qui est Guy Sier, le maire de Fleury, qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission. Un petit mot sur les portraits de Molena.
Oui, Jean-Claude, bon, je ne vais pas être très long, hein, simplement pour signaler à nos auditeurs la sortie d'un bouquin que j'ai trouvé piquant en fait, et bienvenu, signé par Jacques Molena, qui est un journaliste de Montpellier, qui, entre parenthèses, est un de mes amis, et qui vient de sortir ce bouquin qui est intitulé « Notable Trublions et filous ».
Et filous, oui. Hein, c'est un apparentement qui est assez terrible, comme dirait
Canard. Oui, mais qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'utilise pas ce distinguo comme pour justement répartir les élus, considérant que, je crois à juste titre, même s'il ne le dit pas, que tout notable installé est forcément un peu trublion et un peu filou, pour ne pas dire voyou.
Il y a un mélange des gens.
Surtout s'il veut rester notable. Donc, je ne vois pas de commentaire là-dessus. Simplement, je renvoie nos auditeurs dans les librairies narbonnaises, puisque le livre est maintenant disponible. Et il y a, dans les 54 portraits, il y a quatre narbonnais, la bande des quatre, hein, Jacques Bascou, Didier Mouly, Didier Caudroniou et Michel Moynier. Et chacun a droit, à un petit, un portrait.
Je trouve que c'est quand même pas très corrosif.
Enfin, c'est pas corrosif. C'est un bouquin qui est. Jacques Molena a de l'empathie, malgré tout, hein, pour ces hommes et ces femmes qu'il portraitise. Et voilà, sa plume est ironique, elle est pas du tout méchante.
Ça, oui. Maintenant, dire qu'il connaît bien les quatre en question, il les voit d'assez loin quand même. Enfin, nous qui les connaissons davantage.
Oui, et puis je dois dire d'ailleurs que l'expression de Manuel Cunel, porter au scanner, n'est pas juste. Hein. Le scanner n'est pas passé.
Je crois que tu as raison. Alors quand même, retenons quelques citations, Michel.
Oui, bon, moi, Jacques Bascou, lui, est défini comme l'insubmersible. Hein. Il dit par exemple de Jacques Bascou, son ego ne l'envahit pas. Jacques Bascou, président de la communauté d'agglo de Narbonne, a fait sienne la sagesse de Montaigne, au plus haut du monde, nous ne sommes jamais assis que sur notre cul. Entre parenthèses, sagesse qu'effectivement que tout auditeur et tout homme politique devrait
avoir. Alors je ne sais pas si la citation de Montaigne a été reprise par Jacques Bascou ou. Est-ce qu'elle a été citée par Jacques Bascou ou est-ce que c'est Molena qui l'introduit dans le
débat ? C'est Molena qui l'introduit. Je ne suis pas sûr que Jacques Bascou lise Montaigne tous les matins.
Voilà. Bon. Après, il est crédité également d'un vrai sens politique.
Il dit Jacques Molena dit Bascou qu'il a réussi à transformer son inhibition en prudence et en diplomatie. C'est bien vu.
Oui. Mais je crois qu'on peut dire qu'il a un certain sens politique. En tout cas, il l'a démontré au niveau de l'agglo, par exemple.
Didier Mouly, lui, qu'il présente comme l'héritier. C'est vrai que son portrait est quand même un peu plus acide et il met l'accent sur la rivalité réelle, supposée ou fantasmée entre Didier Mouly et M. Malquier.
Oui, là je crois qu'il tenait un peu à quoi. Enfin, je doute vraiment de. Citons ce que reprend Midi Libre par exemple là-dessus.
Ce que j'ai repris dans mon blog aussi, hein, il dit par exemple les Narbonnais tiennent Malquier pour le maire bis, Mouly n'en prend nul ombrage. Ceux qui le mettent en garde contre cet envahissant commensal sont des jaloux, dirait Didier Mouly.
Oui,
énergie lui est vitale et Mouly lui doit tout, le trône et la restauration du Mouly.
Et Midi Libre cite, je cite, Didier Mouly doit à Bertrand Malquier, lui doit tout, le trône et la restauration du moulisme.
C'est ça. Là, c'est ce que je viens de dire à l'instant.
Voilà, mais je trouve que c'est quand même un petit peu.
Je crois.
Exagéré. D'abord, grande question, est-ce que Didier Mouly incarne vraiment la restauration du moulisme? Là, je pose la question, je me garderai une réponse.
Jean-Claude Julliès, toi qui es un historique de cette maison, Nouveau-Narbonne, tu es peut-être plus à même que moi d'en juger.
Je pose la question, mais je n'ai pas la réponse à tout.
Caudroniou, lui, il le présente comme le passeur. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est un grand joueur de ce point de vue-là, qu'il avait une passe remarquable. Je ne suis pas sûr que dans le rugby moderne, il aurait effectivement une place de trois quarts centre aujourd'hui, mais bon, passons là-dessus. En tout cas, il le définit comme un passeur et il dit de lui, au milieu des petits et grands fauves de la politique, tout aux griffes dehors, la gentillesse est l'arme de Didier Caudroniou. Point. Il rajoute que dans l'histoire des socialistes du Languedoc, il reste l'acrobate qui, en 2009, mena bien l'opération à double détente imaginée par Georges Frêche, banni du PS en 2007 avec l'objectif de mettre à son service l'armée socialiste du Languedoc-Roussillon afin de gagner la bataille de l'élection régionale, ce qui fut fait. Effectivement. Michel Loumanier, lui, voilà, le droit, en fait, à ce qualificatif de fougueux. Et il le présente d'entrée de jeu comme ça, hein, en citant Michel Loumanier, « Dieu est bon, la vie est belle ».
Voilà, bon, Michel Loumanier, qui d'ailleurs apparemment s'est retiré totalement.
Que totalement de la, retiré. De la ce que je n'avais cessé de dire le lendemain même de sa défaite, d'ailleurs, et personne ne me croyait. Moi qui le connais bien, je savais que, bon, pouf, du jour au lendemain, il tirait un trait et qu'il ferait du voyage, qu'il lirait et qu'il s'occuperait de ses petits-enfants. Ce qu'il fait, il observe le monde, je peux en témoigner, il s'amuse beaucoup.
Oui. Alors, passons maintenant au sujet suivant qui est un retour historique. Brossolette.
Oui, j'avais fait en mai 2013, donc ça date quand même de 2 ans, hein, ce billet dans mon blog. J'avais fait une petite chronique dans laquelle je disais, voilà, j'ai signé moi aussi, en fait, hein, l'appel au président de la République lancé par de grands intellectuels parisiens pour que les cendres de Pierre Brossolette soient transférées au Panthéon. En 2013, j'avais écrit ça. Et j'avais rajouté, puisque je l'avais mis sous le titre Chronique de Narbonne, j'avais rajouté que l'histoire de Pierre Brossolette, même pour une petite partie de son existence, était aussi une partie de l'histoire du territoire de la Narbonnaise.
Oui, bien et entendu. Et chose c'est que le peu moment de, Narbonnais, de rappeler ce
chose
monument.
Que, voilà, chose que peu de Narbonnais connaissent, savent, que effectivement Pierre Brossolette est parti de ce qui à l'époque était un lieu-dit. Saint-Pierre-la-Mer, il n'y avait rien, il y avait pas, l'arbre de page n'existait pas, en fait, il y avait rien du tout, quoi. Hein.
C'était une plage.
Hein, il est parti en bateau, en fait, de ce lieu-dit pour aller rejoindre les îles du Lérins et puis après partir, effectivement, vers l'Angleterre. Et un de mes lecteurs a rajouté un commentaire et donc une information que je ne possédais pas, en fait, hein, et puisqu'apparemment il est très lié avec ce territoire, et me dit, mais monsieur Santo, mon arrière-grand-père, Monsieur Banneau, qui était un pêcheur du coin, c'est lui qui a transporté Pierre Brossolette dans son bateau pour aller rejoindre effectivement je ne sais quelle embarcation au large de Saint-Pierre-la-Mer pour ensuite partir vers les îles de Lérins. Et notre mère de Fleury, qui ne le dira pas maintenant, mais avec qui on a parlé, mais c'était mon grand-oncle, hein, et il nous a brossé le portrait de ce monsieur Banneau, qui était un personnage absolument extraordinaire dans tous les sens du terme de ce village, et qui, bon, voilà, c'est trop long pour en parler, mais qui visiblement mériterait qu'on lui consacre, en fait, une biographie.
Donc, Guissier, évidemment, cet épisode-là vous touche, puisque d'abord Saint-Pierre, c'est la commune de Fleury, et puis ça vous touche personnellement.
Voilà. J'ai passé mon enfance à écouter les récits de mes grands-parents, et justement, Monsieur Maury d'Ibanot était mon grand-oncle. Et donc j'ai appris par eux son intervention dans l'affaire Brossolette. C'est lui d'abord qui est allé le chercher à Narbonne, qui l'a ramené à Saint-Pierre avec le cheval et la charrette.
À l'époque, oui.
Voilà, et qu'il a pris sur son bateau pour qu'il puisse s'embarquer. Et dans la bataille, Pierre Brossolette a oublié une valise avec des documents de la résistance intérieure.
Fichtre.
C'est extraordinaire. Sans perdre son sang-froid, Banotte a planqué cette valise dans l'allée de Bouède. Il a déplacé une pierre, il l'a mise là, et elle a passé toute la guerre avec les Allemands qui passaient sur l'allée, sous les pieds des Allemands, alors qu'elle contenait des documents importants pour la résistance. Voilà, c'est pour l'anecdote.
Ah oui, ben là, je crois que finalement, il faudra peut-être un jour faire une émission spéciale sur Saint-Pierre et les anecdotes avec Guissier, mais c'est un autre sujet.
Concernant un grand personnage comme Pierre Brossolette, quoi.
Deuxième partie à conclure sur une fusion de communes annoncée.
Oui, les maires de Le Cat, de Cave, de Treille. Hein, et
il y en a un quatrième, je crois.
Cave, Le Cat, Treille et Truyas. Hein. Pas Truyas, en fait.
Non.
Feuillat,
ouais, voilà.
Pardon, Feuillat. Donc, ont pris l'initiative de lancer une étude pour éventuellement, je suis prudent, hein, procéder à la fusion de leurs communes.
Voilà.
Et alors, ça m'a rappelé d'ailleurs, entre parenthèses...
Contesté, comme très souvent, dès qu'on
contesté, mais en tout cas, les maires ont eu ce courage-là, intellectuel en tout cas.
Et il y a une vraie consultation et concertation, apparemment.
Intellectuel, en tout cas, de lancer cette personne. Entre parenthèses, ça me rappelle, en fait, hein, l'initiative prise en son temps quand Michel Moynier présidait... Non, c'était Jacques Bascou, hein, présidait... C'était Michel Moynier qui présidait l'aglo.
Bon.
Mais voilà, donc de rejoindre, il était à la communauté de communes des commerces maritimes, l'aglo. Refusé par tout le monde et maintenant il y est. Mais bon, voilà des maires qui ont compris, de mon point de vue encore une fois, hein, monsieur le maire de Fleury dira ce qu'il en passe par ailleurs, ont bien compris du fait qu'aujourd'hui, dans la crise, avec la crise des finances publiques qui caractérise notre pays et qui est une crise de longue durée, il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne va pas durer 2 ans, 3 ans, on a 20 ans devant nous, hein. Les communes n'ont pas d'autre choix, si elles veulent effectivement assainir en fait, et retrouver des marges de manœuvre finances, notamment à travers la dotation globale de fonctionnement, que de procéder à des fusions. C'est inscrit dans la loi qui est actuellement
en
cours. Et de ce point de vue,
sur laquelle...
un, ça clarifie, ça permet de faire des économies d'échelle, et trois, effectivement, ça permet de faire rentrer la ressource fiscale.
Voilà.
Donc,
c'est un sujet sur lequel je te propose de revenir.
En techno que je fus à l'époque,
ultérieurement,
il faut effectivement dans ce
parce
sens.
Que c'est un sujet probablement plus important qu'il n'y paraît à première vue.
Il va falloir qu'on y consacre
une nous y reviendrons en tout cas une deuxième pause publicitaire et nous retrouvons notre invité Guy Sier.